Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripia, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Marjorie est la maman de 2 enfants qu'elle a eus après avoir pris le temps de voyager avec son conjoint. Après son premier accouchement, elle a de gros saignements mais finalement, rien d'anormal, elle peut rentrer chez elle. Elle découvre alors la maternité, l'allaitement compliqué au départ et les nuits courtes. C'est à l'arrivée de sa fille que les choses se compliquent car de nouveau après l'accouchement, elle perd énormément de sang. Elle alerte les sages-femmes, mais on lui dit que c'est normal et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sauf que 2 mois plus tard, les saignements sont toujours importants et lors d'une visite chez le gynéco, celui-ci l'informe qu'elle a des débris placentaires qui peuvent causer une hémorragie et doivent donc être retirés rapidement. D'abord par voie orale, sans succès pour Marjorie, elle doit ensuite subir un curetage. Mais Marjorie allait et s'inquiète de devoir écourter son allaitement à cause d'une anesthésie qui aurait pu être évitée si elle avait eu dès le début une révision utérine. Bonne écoute.
Bonjour Marjorie.
Bonjour Shane.
Merci de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Avec plaisir. Merci à toi de me permettre de raconter mon histoire.
Alors, tu es la maman de 2 enfants. Quel âge ils ont ?
Alors, mon premier a 3 ans et demi, il s'appelle Raphaël. Et ma deuxième a 1 an, tout juste 1 an là, elle s'appelle Léna.
Et alors, on va revenir un petit peu au tout début. Toi, est-ce que tu as toujours rêvé d'être maman ou ouais. Pas du tout ?
Si, si, franchement, depuis, je pense que j'ai... Bon, j'exagère peut-être, mais 5-7 ans, je me vois avec mais même plein d'enfants, quoi. Genre, enfin plein, 4 ou 5 ou une grande famille. J'ai toujours rêvé d'avoir plein d'enfants. J'ai juste une petite sœur. Même maintenant, aujourd'hui, j'adore ma sœur, hein, mais j'aurais bien aimé avoir plusieurs frères, plusieurs sœurs, enfin ouais. Vraiment une grande famille. Donc, c'est vrai que ouais, c'est vraiment. J'ai toujours espéré ouais, pouvoir avoir des enfants.
Et alors, à quel moment est venu le sujet de la maternité au sein de ton couple ?
Alors, du coup, j'ai rencontré mon conjoint il y a, si je dis pas de bêtises, 6 ans ou même 7 ans. Maintenant, ça passe très vite. Du coup, bah, au début, non, on a voulu quand même profiter. Bon, là, j'ai 30 ans actuellement. Donc, au début, bon, bah, voilà, je m'étais dit que j'aurais peut-être. On essaierait vers quand j'aurais à peu près 30 ans, c'était pas mal, ou 28, 30 ans. Et du coup, on a profité d'abord pour voyager, pour vivre notre vie de couple. En plus, on venait de s'installer dans un tout petit appart à Paris. Je crois qu'il faisait. 17 mètres carrés ou enfin bon bref voilà on profitait vraiment d'être à deux, d'aller au resto, de plein de choses, voilà, faire des grands voyages, on a pas mal voyagé avant nos enfants, c'était cool. Et au bout de du coup 3 ans, ouais, à peu près 3 ans je pense, on a commencé à en parler. Bon, je savais que lui aussi voulait des enfants, donc on s'était mis d'accord sur le nom parce que c'était très important pour moi. Et j'en reparlerai après, mais il y a encore débat aujourd'hui. Mais voilà, on s'était dit bon, pourquoi pas 3 enfants. Donc bon, commence avant 30 ans potentiellement, voilà, ça fait pas trop tard si on veut reprofiter aussi derrière et faire nos enfants grands. Voilà, donc bah écoute, quand on a eu aussi, oui, parce que moi au début, bon, bah, j'étais en stage, etc., le temps que j'ai un travail stable. Mon conjoint est à 4 ans de plus que moi. Donc lui, il avait déjà un travail stable, mais moi, voilà, j'avais commencé, j'étais d'abord en CDD, en stage, etc. Donc je voulais aussi avoir une situation, voilà, un travail qui me plaît aussi, être sûre de ça. Quand j'ai commencé en plus mon job, bon, en toute honnêteté, j'étais déjà prête à avoir des enfants, mais j'ai quand même attendu une bonne année et demie, voilà, le temps d'être vraiment bien installée dans mon travail. Puis bon, j'allais pas prendre un job et tout de suite, ciao, je suis enceinte, quoi. Donc c'est vrai que, ouais, j'ai attendu un peu que tout... voilà, qu'on ait bien profité, entre guillemets, de tout ce qu'on voulait faire. Et après, on a commencé à essayer. Et bah, ça a marché assez rapidement. Donc, ça a marché, je crois qu'au début... moi, je prenais la pile depuis 15 ans. Donc, en plus, c'est vrai que je m'étais... Enfin, depuis mes 15 ans, excuse-moi. Donc, ça faisait un peu moins de 15 ans. Et je m'étais dit... Je sais pas, en plus, j'avais un pressentiment depuis toute petite que j'aurais un problème, je sais pas pourquoi, pour tomber enceinte. Ou que ça mettrait du temps, ou que... je sais pas, où j'avais plus, à mon avis, en vérité, j'avais plus peur qu'il y ait quelque chose qui me... C'était tellement un rêve que j'avais vraiment peur qu'il y ait quelque chose qui me freine là-dedans. Donc en plus, c'est vrai que je crois que j'avais même arrêté la pilule un peu en avance, avant qu'on veuille essayer vraiment, en me disant, bon, bah, de toute façon, je la prends depuis tellement longtemps qu'à mon avis, ça va mettre des mois. Puis quand on lit un peu sur Internet, on se rend compte, voilà, faut... Déjà, même si ça met un an, c'est encore dans la norme, entre guillemets. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, j'avais arrêté un peu en avance. On avait calculé un peu les cycles pour faire attention les premiers mois. Voilà. Puis après, donc on a, la première fois qu'on a essayé le premier cycle, ça n'a pas tout ça pas fonctionné. Et la deuxième fois, ça a fonctionné. Bon, ça s'est mal terminé, mais ça a fonctionné. Donc déjà, j'étais contente parce que j'ai appris que j'étais enceinte. Test de grossesse et tout, donc super super contente, mon conjoint aussi, enfin tout va bien. J'avais fait une prise de sang pour confirmer ça. Bon, maintenant aujourd'hui je savais, enfin j'aurais dû savoir à ce moment-là que ça allait mal se terminer, mais parce qu'en fait le taux était de bêta HCG était très très faible. Il était à 25 je crois. Et vu la date à laquelle on avait eu un rapport, ça pouvait pas être à 25 quoi, parce qu'il est censé doubler toutes les 48 heures. Okay. Donc bon, mais à l'époque c'est vrai que ça me disait rien moi. Pour moi 25, il y a marqué enceinte. Donc je me souviens même que j'avais appelé ma gynéco en disant bah, qu'est-ce que je fais, je suis enceinte, et elle m'avait même pas dit le taux est inquiétant, elle m'avait dit non mais ça sert à rien de me consulter pour l'instant, refaites une prise de sang dans quelques jours pour voir, là c'est trop récent. Bon, donc moi j'étais vraiment j'étais vraiment contente en fait du truc, donc pour moi j'étais enceinte quoi, donc aucun souci. Et je me souviens j'ai dû rester enceinte 3 semaines à peu près. Mais en fait, je me doutais pas une seconde que ça finirait en fausse couche. Et c'est vrai que personne n'en parle vraiment autour de soi. Et puis moi, je suis la première de mes amis proches à avoir des enfants. Ouais. Donc en plus, on n'en parlait vraiment pas. Ma sœur est plus jeune, elle n'a pas d'enfants non plus. Juste ma cousine avec qui je suis très proche, qui a 2 enfants, mais elle n'avait pas fait de fausse couche. Donc voilà, c'est vrai que je connaissais pas le sujet, quoi. Et ouais, je me souviens dans un repas de famille, en plus, avec mes beaux-parents... J'ai commencé à perdre du sang. Bon, voilà, je me suis dit, il y a un problème. Hein. Ouais. Et en plus, on ne l'avait pas encore dit à mes beaux-parents parce que ça faisait 3 semaines, donc c'était trop jeune. J'ai attendu, je me souviens, tout le repas de famille comme ça. Je perdais du sang, parce que je savais, quand j'ai perdu tout le sang, je savais que je connaissais quand même le mot fausse couche, donc j'avais pas de doute, c'était pas un peu de sang, quoi. C'était. Et voilà, donc je voulais pas les mettre mal à l'aise, tu vois. Donc ils ont fini le repas, ils sont partis, puis après on a appelé SOS médecin qui nous a dit d'aller aux urgences. Et je me souviens, c'était de ces urgences-là, Gare du Nord, c'était horrible, parce que c'était déprimant. En plus, c'est ça qui est un peu triste, bon. Et encore, moi je relativise parce que j'ai fait une fausse couche à 3 semaines, hein. Il y a bien, bien pire. Mais quand on va aux urgences, on est mélangé avec les femmes enceintes. Et du coup, c'est vachement dur quand... Ouais. Et encore vraiment, je pèse mes mots parce que je relativise, ça fait que 3 semaines et il y a des cas bien... J'ai vu des cas bien pires. Mais quand t'as les femmes à côté en même temps qui sont enceintes et tout, c'est vachement dur. Surtout qu'aux urgences, t'attends quand même des heures. Mmh. Je me souviens, je sais pas combien de temps on avait attendu. Parce qu'en plus, quand t'es enceinte depuis 3 semaines, t'es pas dans les urgences, dans les premières urgences, quoi. Donc t'attends vraiment longtemps. Mmh. Entre les femmes qui accouchent, les femmes qui ont des trucs plus graves.
Tu te disais quoi, toi, à ce moment-là?
Je me disais... j'étais très pessimiste sur ce moment-là. Je me dis, putain, je fais une fausse couche et ça va être tout le temps comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi j'avais ce... Pourtant, je suis optimiste dans la vie, mais... Ouais, pas surtout, en fait. C'est vrai que là-dessus, je sais pas pourquoi, toujours cette inquiétude que j'allais pas réussir à... Parce que comme c'est mon plus grand rêve... Enfin, c'était mon plus grand rêve, entre guillemets. J'avais l'impression que quelque chose allait m'empêcher de le réaliser. Et si ça avait été le cas, ça aurait été le drame de ma vie. Bon, aujourd'hui, heureusement, il existe plein de choses qui permettent d'aider, etc., à tomber enceinte. Mais du coup, je me disais, tiens, une fausse couche, ça va être ça mon problème. Et puis tout de suite, moi, j'ai fait ma fausse couche internet, direct aux urgences, fausse couche, fausse couche à répétition, des femmes qui en font des dizaines, enfin, des cas, j'exagère, mais il y a aussi vraiment des cas comme ça. Et donc, je me dis, c'est ça mon problème, moi, je vais faire des fausses couches à répétition. Donc, non, franchement, ça a été dur. Même si je relativisais, et puis quand j'en parlais à mes amis, même si elles n'ont pas d'enfants, tout le monde me disait, mais tu vois, c'est ce voile positif, et tu tombes enceinte facilement. Ouais, mais je le perds, donc j'en préférais pas tomber enceinte tout de suite, et ça, c'était un peu ce que tout le monde m'a dit. Ça me réconfortait pas des masses, mais après c'est dur de trouver quoi dire dans ces moments-là aussi, mais je pense que je l'aurais mieux vécu si j'avais pas eu à attendre, sans mentir, on a dû attendre 6-7 heures aux urgences en voyant défiler les femmes enceintes. Donc en plus tu cogites, etc. J'aurais préféré que ça se termine, Donc après, j'ai été reçue aux urgences, bref, rien de... Ça s'est évacué finalement naturellement, donc ce qui est très bien. Donc rien à faire d'autre en fait, juste. Et donc ils me disaient, oui, ils m'ont confirmé, oui, c'est normal, une fausse couche, même 2, c'est à partir de 3 qu'on s'inquiète, c'est tout à fait normal, pourquoi pas. Bon, je restais quand même pessimiste. Il m'a conseillé quand même d'attendre un cycle. Alors, il y a un débat là-dessus aussi, hein, parce qu'il y en a qui disent qu'on est plus fertile juste après une fausse couche, donc vaut mieux essayer maintenant. D'autres qui disent d'attendre plusieurs mois. Bon, peu importe. Moi, j'ai attendu un cycle, que ça se refasse. En plus, on partait avec mon conjoint juste après en voyage en Nouvelle-Zélande pendant un mois. On avait posé un mois de congé, c'était cool. Et je m'étais dit, bon, bah, voilà, on va être détendu, on va recommencer là-bas, quoi. Et j'avais bien fait attention de prendre de l'acide folique avant. Je me souviens que ma gynéco m'avait quand même prescrit de la progestérone à prendre au moment où tu tombes enceinte, en fait. Je crois que c'est les 3 premiers mois. Voilà, j'avais pris mes précautions pour essayer de minimiser au maximum les risques de faire une fausse couche, même si je sais que c'est un phénomène naturel. Et voilà. Donc on part en Nouvelle-Zélande, donc ça c'était top, parce que ça permet de penser à autre chose. Je tombe enceinte en Nouvelle-Zélande. Donc oui, en effet, j'ai de la chance dans ce côté-là, ça, que je tombe enceinte assez facilement. Et cette fois, ça a marché. Bon, le taux, rien à voir, hein. C'était pas 24, c'était, j'ai plus 900 ou 1000, quoi. Donc déjà, je me suis dit, oui, en fait, maintenant que je sais un peu, ou même quand je vois après des témoignages de femmes qui ont vécu la même chose, c'est vrai que, bon, puis j'en reparlerai, mais j'ai fait aussi une deuxième fausse couche après. Et c'est pareil, en fait, le taux...
Directement, voilà. Il était bas.
Ouais, j'aurais même pas dû m'attacher à cette grossesse, quoi. Même si, alors, attention, je parle seulement parce que moi, je savais que mon rapport avait eu lieu 2-3 semaines après. Je sais qu'il y a des femmes qui sont en parcours de FIV, etc., qui vont faire peut-être une prise de sang juste après avoir été inséminée ou quelques jours après. Bon, bah là, potentiellement, c'est normal que le taux soit faible, puisqu'il va, il commence forcément par être faible et après il double. Mais moi, vu la date du rapport, bon, bah voilà, j'aurais dû être. Enfin, si j'avais su, j'aurais su que 24, c'était pas possible. Donc voilà, donc je tombe enceinte de mon premier enfant, donc très contente, surtout vu le taux. Alors là, même si j'étais quand même très stressée, surtout quand on dit il doit doubler toutes les 48 heures, donc au bout de 48 heures, je refais le truc, il double, donc ça c'était cool. Et je crois que j'étais tellement stressée que j'ai dû refaire encore 48 heures après. Et bon, pareil, il avait dû redoubler aussi, donc cool. Donc là, vraiment, je me suis projetée. On a quand même attendu 4 mois avant de l'annoncer, parce que moi je m'étais dit, bon, bah de toute façon, voilà, si je fais une fausse couche au bout de 3 mois.
Ouais, c'est resté dans ta tête quand même.
Ouais, franchement, ouais, et puis j'étais assez excessive. Alors déjà, j'étais pas immunisée contre la toxo. En fait, c'est parce que ce qui a été difficile aussi dans cette fausse couche, c'est que je me suis dit, dans la première, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait. Même si on lit, hein, que c'est un phénomène naturel, etc., on se dit quand même, attends, oui, en plus, on était partis pendant que j'étais enceinte du bébé, mais de l'embryon, je sais pas comment on l'appelle, que j'ai perdu. On était partis à la montagne, puis j'avais mangé, je pense, du fromage, je le savais pas encore que j'étais enceinte, j'avais dû manger du fromage au lait cru ou de la charcute, et je m'étais dit, ah, ça se trouve, c'est ça que j'ai mangé. J'avais bu du coca, je m'étais dit, ah, il y a de la caféine, ça se trouve, j'en ai bu trop. Et du coup, en fait, je m'étais remis tellement en question que quand je suis retombée enceinte la deuxième fois, vraiment, j'ai tout supprimé. On m'avait dit, enfin, moi, je bois beaucoup de café, à peu près 3 tasses par jour. Là, j'en buvais même 0, alors que je savais qu'on pouvait en boire une. Même dans mon maquillage, j'ai changé tout mon maquillage pour prendre des trucs sans perturbateurs endocriniens. Vraiment, j'étais... Voilà, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Très excessif, parce que si mon conjoint pouvait dire 2 mots là-dessus, voilà, ou même mes amis, hein, c'était... Voilà, j'étais très excessive et j'étais pas immunisée non plus contre la toxoplasmose. Oh, et ça, franchement, c'est super chiant. Parce que la listeria encore... Je pense que ça m'inquiétait moins parce que finalement, bon, bah, c'est pas compliqué de pas manger du fromage au lait cru, Mais la toxo, le fait, la salade, etc., les fruits et légumes bien lavés, en fait, quand tu vas au resto ou quoi que ce soit, bon, bah, souvent, on te met des petites tomates cerises ou un peu d'herbes fraîches, tu vois. Et moi, je ne mangeais pas. S'il y avait juste des herbes fraîches que j'avais pas moi-même lavées, déjà, je faisais pas confiance.
Ouais.
Donc, tu vois, en fait, et en plus, c'était une période où on n'avait pas encore du coup d'enfant parce que j'étais enceinte du premier. Du coup, on sortait pas mal, on allait quand même pas mal au resto. Moi, mes amis n'ont pas du tout d'enfants, donc c'est vrai que j'avais tendance à sortir pas mal, et c'est vrai que j'étais très inquiète, quoi. Même, tu vois, j'avais bu un Virgin Mojito avec des collègues à Londres, donc sans alcool évidemment, mais dedans ils te mettent quand même des feuilles de menthe. Ouais. Et en plus, j'étais devant mes collègues, je l'avais pas annoncé, et donc je m'étais forcée, entre guillemets, à boire le truc, mais après voilà, stress jusqu'à temps que je fasse ma prise de sang toxo pour vérifier que. Et c'est vrai que j'ai été. Aujourd'hui, voilà, ça me fait sourire et. Ça m'empêche pas d'avoir adoré ma grossesse. Hein. Mais si on en parle à mes proches, ils diront non, mais toi, t'étais trop excessif, quoi. Ouais, c'est vrai que. Mais ce coup des herbes fraîches, ouais, je sais que tout le monde me dit, mais Marjo, enfin, arrête. Mais non.
Ouais.
Donc, ouais, j'ai tout donné pour que ça vienne pas de moi, en tout cas, s'il y avait une fausse couche. En tout cas, j'en ai pas faite, voilà, puisque mon garçon est né. La grossesse s'est très bien passée, j'ai eu aucun mot de grossesse.
À partir de quand tu t'es détendue un petit
franchement,
peu
franchement
jamais jusqu'à la
pour
naissance.
Les deux enfin détendue et j'adore être enceinte hein. Je c'est... Ouais, j'adore être enceinte, j'adore accoucher. C'est ça qui est assez contradictoire d'ailleurs. Non, je me suis jamais vraiment détendue, mais parce que bon, moi j'étais chez mon gynéco en plus toutes les deux semaines hein, pour vérifier que tout aille bien. Hein. Ouais. Donc hors écho officiel. Hein. Voilà, parce qu'on pouvait écouter le cœur, etc. Non, non, franchement, je pense que
ouais, là-dessus. T'as eu un trauma sur la fausse couche.
Même... Ouais, ou alors peut-être que j'aurais été franchement comme ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas où j'aurais été comme ça naturellement. Je sais pas, ouais, franchement. Et j'avais pas de symptômes de grossesse en plus les trois premiers mois, donc je me souviens que je me disais, mais attends, je suis vraiment enceinte ou. Vraiment, aucune nausée, aucune. Les seins douloureux, mais sans plus, enfin, pas de fatigue. Alors c'est cool, hein, franchement. Ouais. Mais c'est vrai que. Voilà, je me sentais pas enceinte, donc. Non, si, j'ai été quand même rassurée quand j'ai senti bouger, faut dire ce qui est. Parce qu'en fait, j'avais juste à le sentir bouger tous les jours pour savoir qu'il allait bien et être rassurée, en fait. Mmh. Donc ça, c'était cool. Et en général, bon, bah. Enfin, c'est mieux d'ailleurs, il bouge quand même tous les jours, donc du coup c'est vrai que j'avais plus besoin d'aller chez le, faire la démarche d'aller chez le gynéco pour vérifier, donc si, j'ai quand même été plus détendue à ce moment là mais je faisais toujours super gaffe avec la toxo, ça c'est clair et net, ouais, quitte à manger des trucs qui me plaisent moins ou la viande je la faisais ultra cuire mais ça a été pareil pour les deux hein. Pourtant je m'étais dit, j'avais dit à mon conjoint, non mais tu verras pour le deuxième ce sera pas pareil, je serai hyper détendue, mais non, non. Puis, il y a le Covid par dessus, enfin, on en reparlera, mais voilà, donc non non, la grossesse très bien passée, franchement non, rien à dire. Jusqu'au jour où, deux semaines avant mon terme, du coup, j'ai accouché. Donc, c'est venu d'un coup. Pareil, j'ai jamais vraiment eu de contraction avant. Du coup, je savais vraiment pas du tout ce que c'était une contraction. Bon, bah, je l'ai su le moment où ça l'a. Je me souviens, c'était un vendredi soir. Je crois que c'était un vendredi soir, ouais. Après un épisode de Koh-Lanta. J'aime beaucoup Koh-Lanta. Ouais, 22h30, d'un coup, quoi. Alors, j'étais en pleine forme, et d'un coup, c'est vrai que j'ai commencé à avoir des contractions. J'en avais jamais eu avant. Et puis, je savais qu'il y avait un truc, quoi. Je me souviens que là, on nous avait dit à l'hôpital, dans les cours d'accouchement, qu'il fallait attendre un petit moment avant, tu sais, je sais plus combien de temps, hein, mais d'aller à la maternité. Bon, bah, moi, inquiète que je suis allée tout de suite à la maternité. De toute façon, je me doutais que c'était ça. Deux semaines avant le terme, en plus. Donc voilà, donc ça c'était le, ouais, la veille du 11 novembre. Donc je vais à la maternité le soir. Donc là, c'était long parce que je crois que j'étais ouverte qu'à 1. Donc tu vois, en plus, bon, moi je voulais la péri.
Oui, t'avais fait un projet de naissance ou non, tu voulais la péri?
Non, et franchement, à l'époque, je savais même pas ce que c'était, ouais, un projet de naissance. Enfin, je crois qu'elles avaient dû me demander, j'ai un projet de naissance. Bah, ouais. Je veux juste accoucher, quoi. Qu'il aille bien. Enfin, non, franchement, j'étais. C'est ça que maintenant on en parle de plus en plus de ça. Non, je savais que je voulais la péri, c'est vrai que j'avais pas de doute là-dessus. Voilà, donc j'attendais de la voir parce que je crois qu'elle pouvait, enfin, en tout cas, elle me conseillait de la mettre que quand à partir de 3 ou 4. Ou... Donc il fallait vraiment attendre et ça a été. Alors, mon accouchement a duré 12 heures, en vrai ça va, mais du coup j'ai dû attendre bien 6 heures de contraction très forte.
Enfin, oui, quand même.
Voilà, donc ça a été, ouais, ça a été long. Je me souviens qu'il y avait une douche dans la chambre de l'hôpital, surtout que je suis arrivée vraiment au tout début. Hein, oui. Donc, bon, en même temps, j'aurais. Je sais pas si j'aurais fait beaucoup de choses de plus chez moi, mais du coup je prenais des douches pour me détendre. Et bon, après finalement c'est vrai que ça fait très mal les contractions, mais je sais que ma sœur a peur d'avoir des enfants juste parce qu'elle a peur d'accoucher. Mais c'est vrai, ce que je dis toujours, c'est que ça fait tellement mal, mais ça s'arrête en fait. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que bon, ça, t'en as très souvent, mais je veux dire, tu sais que t'as ta contraction, elle se termine. Ça, t'es en pleine forme, hop, et puis ça recommence. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est pas une douleur qui va durer comme ça. Enfin, en tout cas pour moi. Qui va durer comme ça longtemps sans s'arrêter. Donc tu sais que tu vas pouvoir récupérer tout de suite après ta contraction. Donc c'est vrai qu'au final, bon, c'est vrai que, non, mais ça fait hyper mal. D'ailleurs, j'ai pris la péridurale. Donc, et je ne sais pas du tout. Je ne connais pas la douleur qu'il pourrait y avoir après la péridurale. Mais enfin, si je ne l'avais pas prise, excuse-moi. Mais c'est vrai que. Ouais, non, je suis contente de l'avoir eu. Franchement, ouais, au bout de 6 heures, j'étais. Voilà, j'avais pas spécialement peur de la piqûre ou quoi. Bon, il l'a fait assez facilement. Voilà, et après, c'est vrai qu'on est super soulagé, quoi. Mmh. Franchement, bon, le seul truc un peu embêtant, c'est vrai que t'es sur ton lit et tu peux pas bouger, quoi. Donc t'attends. T'attends que ça passe. Puis en plus, alors, il me l'avait pas tellement dosé que ça. Quoique, je chantais quand même pas les contractions, hein. Donc, bon, je chantais un peu que ça se durcissait, mais vraiment sans douleur. Donc c'est vrai qu'après, là, le temps est beaucoup plus long. Bon, au moins, tu reprends ton portable, tu recommences à essayer de t'occuper. Et ça a reduré, du coup, 6 heures après la péridurale. Et puis après, bon, bah, la sage-femme surveille, etc., comme pour tout le monde, jusqu'à temps qu'il y a un moment, je crois, dilatée à, ouais, à 9 ou 10 même, non, même 10. Je crois que j'étais déjà dilatée à 9 ou 10, mais elle m'a dit, on va attendre quand même que le bébé descende. Donc, je crois qu'elle m'a mis sur le côté pour qu'il ait la tête le plus bas possible pour pouvoir sortir. Et puis voilà, moi, je sentais rien, mais elle m'a dit, bon, bah, maintenant, bah, faut pousser. Bon, bah, là, c'est assez marrant, parce que d'un coup, t'es dans ton lit, et ça qu'avec la péri, tu sens pas grand-chose, ouais, quand même. Enfin, en tout cas, moi, la manière dont elle était dosée, je sentais pas grand-chose. Et voilà, donc bah là j'ai poussé, ça n'a pas duré... Alors si, quand même, enfin rien de grave hein, non plus, mais au début ouais, j'ai dû pousser une ou deux fois. En plus j'avais pas appris à pousser moi je crois dans mes cours, Non on avait parlé, on avait visité l'hôpital, on avait parlé de... des suites de couches, comment se passe un accouchement, tu vois, mais on n'avait pas parlé de... J'avais pas... On m'a jamais appris à pousser, quoi. Bon, finalement, c'est un... Enfin, je trouve que c'est assez instinctif.
Ouais.
Bah, tu pousses, quoi. Mmh. Bon, non, mais voilà. Je... Mais bon, voilà, donc je pousse une ou deux fois, je crois que ça fait rien. Et en fait, d'un coup, le cœur de mon fils s'est mis à descendre. Donc là, elle m'a dit... Je me souviens qu'elle a appelé la gynéco... et elle m'a dit vous poussez maintenant ou soit il sort maintenant ou soit non c'était pas césarienne mais c'était forceps où on va devoir mettre un instrument parce que c'est faut qu'il sorte maintenant quoi. Et je me souviens que j'ai fait cette dernière poussée et je me souviens que la gynéco entrait dans la chambre et non en fait il venait de sortir quoi. Donc ça c'était cool même si j'ai eu quand même une épisio. Bon j'en reparlerai mais voilà donc mon fils est sorti là, c'était génial et il allait très bien voilà ouais. Au final il est sorti à temps voilà donc le 11 novembre 2017 hein, voilà. Donc non, c'était super. Voilà, après ça, c'est... Ben, avec la péri, on est obligé d'attendre plusieurs moments avant de pouvoir être remonté en chambre. J'ai saigné... Ben, déjà là, c'est vrai que... Bon, rien, au final, ça s'est arrêté là. Mais j'ai saigné beaucoup et je me souviens que même... lors de mon premier accouchement, elles avaient rappelé le gynéco pour voir si c'était normal que je saignais autant. Et je me souviens qu'elles m'appuyaient pas mal sur le ventre pour voir si j'avais... Déjà, il y avait eu un truc comme ça.
Si t'avais des restes
ouais,
des...
ou faire une hémorragie parce que je crois qu'il y a des cas d'hémorragie qui peuvent être plus graves ouais donc j'avais été en observation plus longtemps que je crois que je dis peut-être une bêtise mais quand on a la péri on doit attendre à peu près 2 heures en salle ou et donc là j'avais déjà attendu beaucoup plus parce que elle trouvait que je saignais un peu trop
okay.
Bon après elle avait vérifié le placenta voilà il était complet bon mais ça c'est très bon par la suite il y a pas eu de souci hein. Donc bon écoute voilà après ça s'est calmé je suis remontée en chambre voilà j'ai saigné après pendant je sais plus trop mais ça m'a pas choquée. Ils disent que tu peux saigner pendant 6 à 8 semaines je crois, j'ai dû saigner 4 semaines voilà et ça s'est arrêté normalement.
Et alors le retour à la maison
le retour à la maison ça fait bizarre quand même parce que c'est vrai qu'à la maternité on est quand même dans un comment dire, on prend vraiment soin de nous. Et puis c'est, quand c'est le premier enfant, en plus, enfin, moi, je ne savais pas trop comment faire avec mon conjoint. Et ce qui a été dur, du coup, bah, déjà à l'hôpital, puis encore plus à la maison, donc c'est moi l'allaitement. Donc je m'étais dit, bon, je l'allaiterai si je peux. En fait, une fois que j'ai commencé, j'ai eu envie de réussir, en fait. Donc même si ça a été compliqué, même si avant, quand j'étais enceinte, quand on me posait la question, je disais, bon, on verra si j'y arrive pas, c'est pas grave, quoi. Mais quand j'ai commencé, j'ai eu envie de réussir et ça a été tout de suite très compliqué. Beaucoup de crevasses en fait et puis il arrivait pas ou alors j'arrivais pas enfin tous les deux je pense il arrivait pas à prendre le sein quoi donc en fait apparemment il tétait juste le téton quoi enfin, il tétait pas le sein en entier donc du coup ouais, j'avais des crevasses déjà au bout de déjà la maternité je crois j'avais des crevasses c'était l'enfer ça faisait ouais, super mal plus l'épisio qui était quand même assez grande donc je pouvais pas non plus m'asseoir enfin si je pouvais m'asseoir mais ça faisait très très mal donc ça plus les douleurs de ah, ouais, non, mais bon mais à côté de ça j'étais contente à la maternité j'étais un peu dans mon comment dire dans mon euphorie en fait enfin puis bon t'es quand même avec plein de professionnels qui donnent quand même des conseils j'étais un peu dans mon euphorie je me souviens que même la première nuit bon je mélange peut-être un peu les sujets mais ma première nuit j'avais même pas réussi à dormir alors que mon fils avait bien dormi sa première nuit il avait dû se réveiller une fois ou deux enfin rien de fou quoi j'étais tellement excitée et heureuse en fait que voilà et je pense que ça m'avait pareil avec les douleurs j'étais tellement contente et heureuse que finalement bon c'est plus le retour à la maison, en effet, qui... Quand là, ça redescend un peu, quoi. Et à la maternité, ouais, pour l'allaitement, du coup, même en sortant de maternité, il ne prenait toujours pas bien le sein. Donc, c'était un peu inquiétant. Enfin, inquiétant pour moi, qui voulais allaiter, en tout cas. Et en plus, les sages-femmes, à ce moment-là, me donnaient toutes des conseils différents, en fait.
Hey.
Ouais, ça a été vraiment compliqué. Je me souviens qu'avec mon conjoint, les premières sages-femmes m'avaient dit oui, parce que moi, je dis allaitement, comment je sais s'il a faim encore, ou à quel moment je dois donner, ça se trouve, je donne trop, et du coup, ça m'irrite. Bon, donc, elle m'avait dit non, mais il faut faire toutes les 2 heures. Et je me souviens, le dernier jour, avant de sortir à maternité, on avait vu une autre, parce que du coup, ça tourne, hein, sur les 2-3 jours où tu restes à maternité, une autre sage-femme qui nous avait dit mais non, pas du tout, c'est à la demande. Et là, on était certains avec mon conjoint, on dit bah non, ça fait 2 jours qu'on nous dit que c'est toutes les 2 heures, donc. Donc on était complètement perdus, on s'est dit bah non, faut, c'est quoi la règle
ouais.
Donc, bon. Et puis c'est vrai qu'on fait vachement, quand c'est le premier, bon j'avais lu des trucs, hein, mais on sait pas trop, donc on fait confiance. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas toutes le même discours. Et bon, maintenant, aujourd'hui, je saurais à qui m'adresser pour tout ça. Mais voilà, elles ont pas toutes les bonnes infos. Donc c'est vrai que donc j'étais retournée à la maison, ouais, et toujours dans ce même... toujours à galérer, des crevasses, etc. Mais je persistais et mon fils prenait du poids. Hein, donc au final, il prenait du lait parce que vraiment, je... Bah, je suis assez fière de moi d'ailleurs là-dessus parce que franchement je souffrais, mais voilà, c'est pas grave quoi. Bon, ça n'a pas duré non plus tant de temps que ça. Les 10 jours ont été très compliqués. Après, au bout de quand même 2-3 jours, tu sais, il y a des sages-femmes qui viennent à la maison. Et là, j'ai eu la chance, du coup, peut-être 2-3 jours après être rentrée chez moi, d'avoir rencontré une super sage-femme qui est aussi conseillère en allaitement pour coup. Mmh. Et qui m'a donné une super technique en fait. Du coup, j'avais des crevasses seulement à certains endroits des seins. Et c'est vrai que moi, je prenais un peu tout le temps la même position. Du moins, j'essayais parce que je galérais un peu à ce qu'ils prennent bien le sein. Et en fait, elle m'avait montré tellement de positions, dont des positions, en fait, elle avait même elle avait étudié le truc pour me dire, bon, dans cette position-là, il touchera moins la crevasse. Donc en fait, si tu alternes vraiment les positions, il va moins frotter sur ta crevasse, il va frotter sur l'autre partie. Et du coup, déjà, ça m'avait vachement soulagée, quoi. Franchement, ça avait été le meilleur conseil. Et puis le fait d'avoir eu d'autres positions, parce qu'en fait, à la maternité, on t'en monte. Enfin, on m'en a montré peut-être une ou deux, tu vois, mais en fait, il en existe plein, quoi. Donc, ça, vraiment, ça avait été... je pense qu'elle m'a peut-être sauvé mon allaitement. Donc, elle m'a prescrit aussi... évidemment, il y avait la crème Lancino, là, mais que je mettais depuis le début. Donc, c'est pas ça qui m'avait aidé, mais elle m'avait même prescrit, parce que mes crevasses, c'était quand même costaud, un truc un peu plus fort à mettre sur le sein. Bon, pour le coup, le bébé ne pouvait pas la prendre, donc il fallait quand même laver le sein à chaque fois. Et un autre conseil qu'elle m'avait donné, elle était vraiment géniale, cette sage-femme. Je le conseille à toutes les mamans qui allaitent, franchement, à la place des coussinets d'allaitement, les coquillages d'allaitement, qui sont juste géniaux parce qu'en fait ça touche pas c'est comme un coquillage, ça touche pas du tout le téton en fait. Donc quand t'as déjà une crevasse, tu mets ta crème, ça fait voilà, c'est comme un coquillage, ça permet que déjà ton t-shirt ne touche pas ton téton, où il y a pas de coussinet qui touche ton téton, et puis en plus ça cicatrise mieux parce que ton téton il est aéré quoi, dans le coquillage. Et en plus le coquillage c'est avec la matière, ça reste toujours un peu frais. Enfin franchement génial. Ça plus la crème plus les positions, les crevasses ont été en diminuant, et donc les 10 premiers jours on va dire ont été compliqués. Le temps en plus que mon fils et moi je réussisse en tout cas à le faire bien prendre le sein. Et après, je l'ai allaité quand même 6 mois. Donc, non, vraiment, les 10 premiers jours durs. Mais de toute façon, on dit, je crois que c'est les 10 premiers jours qui sont les plus durs. Donc, vraiment, si on s'entoure des bonnes personnes, enfin, si vraiment c'est un projet d'allaiter, si on s'entoure des bonnes personnes, de la bonne personne, de vraies conseillères en allaitement qui connaissent vraiment leur sujet, voilà, faut se dire que ça, vraiment, que ça dure pas. C'est vraiment les 10 premiers jours qui sont les plus durs. Et après, mon fils avait aussi, on peut en parler maintenant, mais avait aussi un frein de langue. Donc, voilà, qui apparemment, ça n'aide pas toujours pour les. Enfin, ça aide pas pour l'allaitement. Quand il est important, en tout cas, le frein de langue. Donc potentiellement, quand il est important, voilà, c'est bien de se renseigner pour potentiellement le faire couper. Donc moi, ils m'ont déjà coupé à la maternité parce qu'ils s'en sont rendus compte tout de suite. Ça n'avait pas fait grand-chose. On me l'a recoupé encore par un ORM, me l'a recoupé après quand je suis rentrée chez moi. Et bon, je ne sais pas si vraiment c'est ça à 100% qui a fait que...
Ils l'ont coupé deux fois, du coup.
Ouais, deux fois. Une fois à la maternité, directement, le pédiatre du... Voilà. Mais il a peut-être pas... Apparemment, il n'avait pas coupé assez. Donc, j'ai dû le refaire faire couper, pareil, une fois chez moi, mais au bout de 2-3 semaines. D'accord. Chez un ORL, cette fois. Voilà. Bon, après, voilà. Est-ce que vraiment... Parce que, bon, finalement, quand on me l'a coupé la deuxième fois, l'allaitement, ça allait déjà mieux. Donc, je ne sais pas. Voilà. Bon, écoute, je l'ai fait. Surtout que c'est vraiment une opération qui prend... Enfin, ça prend 2 minutes... apparemment c'est pas tant douloureux que ça pour le bébé, donc je l'ai fait au cas où. Donc voilà, donc l'allaitement, écoute, a commencé à bien se mettre en route, et après c'est devenu cool, même si mon fils buvait toutes les 2 heures pendant très très longtemps en fait. Et comme après j'avais lu, ou même ma conseillère m'avait dit, non mais c'est vrai que c'est à la demande, essayez pas de calculer ou de mettre des horaires. En fait, quand t'as l'impression de faire que ça, bon, t'as quand même envie qu'il ait des petits horaires, quoi. Qui commence à se... Et c'est vrai que ça venait pas, ça a été long. Ça a été très long. C'est ça qui était un peu stressant. Enfin, ça qui est un peu stressant dans les post-accouchement, je trouve, Enfin, moi, je m'attendais à avoir des règles comme ça, qu'on me dise, bon, bah voilà, faut que tu fasses comme ça, et que ça marche bien, en fait. Et en fait, non, c'est vraiment beaucoup plus au feeling. Et du coup, ouais, ça a été stressant parce comme beaucoup, on cherche vraiment à bien faire, à avoir la bonne solution, et on n'entend pas les mêmes choses partout. Et voilà, même sur le sommeil, hein, ça, moi, mon fils, je sais que les. Moi, je pensais qu'un bébé, il se réveillait, il n'y avait pas de souci, quoi. Enfin, il y a des bébés comme ça d'ailleurs, hein, heureusement. Il se réveille, il dort, il se réveille pour manger, il pleure un peu, voilà, tu les rendors, tu les poses. Moi, mon fils, je ne pouvais pas le poser sur son berceau pendant longtemps. Mmh. Et donc, concrètement, les premières semaines, bah si je dormais pas avec lui, il dormait pas quoi. Je me souviens qu'avec mon conjoint, on dormait, on se mettait sur le canapé, on le posait sur nous et on s'alternait. On s'alternait comme ça pour que la nuit, pour qu'il dorme quoi, parce que on le posait, il se réveillait, puis on le posait plusieurs fois et il se réveillait. Donc puis en plus quand t'es à côté de ça, on te donne des conseils. Bon, non seulement les conseils dans le sens où c'est dangereux de faire ça, si tu t'endors, qu'il tombe. Bon. Ou tu peux pas dormir avec dans ton lit parce que pareil, les risques de mort subite. Alors oui, hein, je pense que ça existe, mais c'est vrai que du coup quand t'es dans cette situation où ton fils dort pas, si tu dors pas avec, du coup t'es bloqué, tu dis, du coup t'es vraiment en stress parce que tu dis, putain, si je dors avec, je le mets en danger, du coup je stresse, mais si je le pose dans son lit, bah il dort pas, il se réveille tout le temps, toutes les 20 minutes, donc en fait qu'est-ce que je fais quoi. Donc c'est vrai que ça a été très stressant au début. Bon, au final, hein, j'ai tenu quelques semaines, on a essayé, enfin au final, j'ai accepté de dormir avec lui, quoi, concrètement. Mmh. Pas, ça n'a pas duré tant de temps que ça, finalement. On m'avait dit, oui, tu verras, tu vas l'habituer au bras, etc. Je me souviens de tous ces conseils, surtout des parents, des oncles et tantes. Puis c'était pas non plus la même génération, mais c'était vraiment ça, ouais, tu prends trop dans les bras. Moi, mon fils, il a avancé 6 mois, il faisait que ses siestes sur moi ou sur mon conjoint, mais pas parce que, parce qu'il voulait pas être dans son lit. Ou alors, il dormait que 20 minutes, quoi. Donc je préférais qu'il dorme 2 heures sur moi que 20 minutes... Surtout que j'ai repris le boulot que quand il avait 8 mois, donc pour le coup j'étais chez moi, donc je pouvais très bien me permettre de faire ça, même si c'était pas facile, parce que je me reposais pas dans ces moments-là. Mais je me souviens que ce qui avait été le plus dur, c'était même pas de faire ça, c'était même pas la fatigue, c'était vraiment toutes ces remarques tout le temps. Et je me disais, ah ouais, ça se trouve, je fais mal. Ouais. Donc c'était plus ça en fait, ouais. Et au final, en fait, j'ai fait pareil pour ma deuxième, hein, faut vraiment faire au feeling, parce que quand mon fils a été prêt de dormir dans son lit, bah, du jour au lendemain, il a dormi dans son lit, quoi. Et ça a pas duré des années, hein, ça a duré quelques mois seulement. Alors, il y a peut-être des cas différents, hein. Mais voilà, il a dormi dans notre lit, et peut-être dans notre lit, vraiment avec moi la nuit, je pense que ça a dû durer 1 mois. Après, direct, il a accepté de dormir dans son lit la nuit. Donc ça, c'était... Vraiment, je sais pas si ça s'est fait du jour au lendemain, mais... Je sais pas, peut-être qu'il avait eu son quota d'affection avec moi la nuit et il a accepté. Les siestes, ça a été beaucoup plus loin, les siestes, ouais, jusqu'à 6 mois, je pense que je l'ai gardé sur moi. Mais après, pareil, hein, j'exagère en disant du jour au lendemain, mais à force de l'habituer un peu à être dans son lit, etc., bah non, il a fini par réussir. Mais ça a été très stressant, moi, ces moments-là. Et vraiment, j'insiste sur ça, c'est plus les conseils des autres, des gens qui disent que bah ouais, mais si tu fais ça, ça va être comme ça toute ta vie. Tu dis, oh non, j'ai pas envie que ce soit comme ça toute ma vie, ou je fais mal, ou comment je peux faire, et en même temps t'essayes plein de techniques et ça marche pas. J'ai essayé des milliards de techniques, moi, pour qu'il dorme dans son lit, hein. Les bouillottes, tout ce qu'on nous dit, hein, les bouillottes, les doudous, les tours de lit, enfin j'ai tout fait, franchement. Je dois avoir chez moi, je pense, tu sais, les matelas qu'on rajoute dans les grands lits là pour qu'ils se sentent un peu plus confinés.
Ouais.
Je sais plus comment on appelle ça. Bref, j'ai dû en acheter 2 ou 3 parce que je me rendais compte qu'après, une autre maman avait réussi à le faire dormir dans son lit avec ce matelas-là précisément. Donc je l'avais racheté en me disant, bah, on est prêt à tout. Hein. Je me souviens que j'avais acheté un transat qu'on balance comme ça, un peu comme un hamac, tu sais. Ouais. Je m'étais fait engueuler par mon conjoint aussi. Il m'a dit, mais tu dépenses trop. Mais j'avais tellement envie de trouver des techniques pour qu'il dorme là-dedans. Mais plus au final, parce que j'avais peur, je pense vraiment, hein, plus parce que j'avais peur de que ce soit tout le temps comme ça. De ce que me disaient mes parents, etc., et tout le monde, en fait, plus que de par ma fatigue, en fait. Si j'avais su à l'avance que ça aurait duré que 6 mois, bah franchement, je l'aurais super bien vécu, parce que je me serais dit, c'est quoi, 6 mois dans ta vie, profite, c'est un bébé, il dort sur toi, bah voilà, c'est 6 mois. T'es crevé, mais ça va passer, quoi. Et voilà, 6 mois dans une vie, ou même pour certaines, bon, ça dure plus longtemps, évidemment, hein, ça peut durer 1 an, ou c'est un peu galère, mais c'est quoi 1 an, franchement, après, au bout de 10 ans, ça nous paraît quand même bien lointain, même si on a bien galéré au début, quoi.
Et alors, donc, du coup, vous trouvez un petit rythme tous les trois.
Ouais.
À quel moment vous décidez de faire un petit deuxième?
On s'était dit qu'on attendrait qu'ils aient à peu près environ 2-3 ans d'écart. Même si tout de suite après accoucher, malgré tous les petits trucs, petites galères que j'avais eues, j'avais tout de suite envie de retomber enceinte, mais je pense que c'était les hormones. On s'était dit, ouais, 3 ans d'écart, c'est pas mal. À partir du moment où mon fils a commencé à faire ses nuits, donc déjà c'est devenu quand même plus cool. Il commence à grandir, à marcher. On a attendu un peu, on a un peu profité tous les trois, ouais. Et puis on a commencé à essayer. Bah là, on s'est marié avec mon conjoint entre temps. Donc déjà on s'était dit, bon bah ce sera forcément après le mariage. Mmh. Donc à peu près 2 ans, ouais, 2 ans à peu près après. Et du coup on a commencé à concevoir notre deuxième pendant notre voyage de noces en Polynésie. Donc c'était cool. Bon, en vrai, je suis tombée enceinte d'après les gynécos, avant de prendre l'avion, la veille de l'avion. Je dis toujours que c'est en Polynésie, parce que bon, c'est presque en Polynésie, et c'est mieux. Enfin, le premier en Nouvelle-Zélande. Mais en vrai, non, c'était ici, à Vincennes. Mais bon, voilà, donc ça a marché aussi, ça c'est cool, la première fois. Pour le coup, pas de fausse couche cette fois-là encore. Enfin, cette fois, ouais, cette deuxième fois. Donc ça, c'était cool. Je dirais que j'ai eu le même stress quand même que pour mon fils. Hein. Je pensais pas. Franchement, je me suis dit que je serais différente, mais non. Non, non, j'ai pareil, changé de maquillage. Voilà, j'ai fait attention à ce que. Même à mon déo pour voir s'il n'était pas. J'ai utilisé beaucoup l'application Yuka pour vérifier que tout allait bien. Je me suis fait prescrire de la progestérone aussi, pareil, parce que je me suis dit, bon, si ça peut aider à ne pas faire de fausse couche. Donc voilà, toujours très heureuse, parce que vraiment, j'ai adoré être enceinte. Et même accoucher, en fait, je trouve ça, même si ça fait mal, etc. Hein, mais. Et puis bon, ça s'est plutôt bien passé quand même pour moi, mais. Ouais, je trouve ça fabuleux, quoi. Donc, bon. Mais à côté de ça, j'ai quand même ce stress. Et je pense que même si j'avais un jour un troisième, je pense qu'en fait, je serais toujours comme ça, quoi. Bon, tant pis. Je l'accepte. Voilà. Même si parfois on se moque de moi. Bon, tant pis. Donc, non, pareil. Donc, je tombe enceinte. Ça se passe aussi très bien. Ouais, pareil. Pas de mot de grossesse. Vraiment le même type de grossesse. Hein. C'est pareil. On attend 3-4 mois avant de l'annoncer. Donc, toujours. Je reste sur mes gardes, on ne sait jamais, les 3 premiers mois. Donc la grossesse suit son cours. Ensuite, il y a eu le confinement quand même. Parce que du coup, ma fille est née le 26 mai. Donc oui, il y a eu le confinement entre-temps. Donc elle était un peu stressante, bah, même pour tout le monde. Hein, parce qu'on ce virus qu'on ne connaissait pas d'un coup, qui commence à apparaître. Quand on est enceinte, on se dit, oh là là, quel risque pour mon bébé. Et encore, on a eu de la chance avec mon conjoint. Parce que avant qu'on sache qu'on soit confiné... Nous, on essayait toujours de... Tant que mon fils n'était pas scolarisé, on essayait toujours de partir en vacances, hors vacances scolaires. Et donc là, pour le coup, ça tombait hors vacances scolaires. On avait prévu de partir en vacances dans le Jura avec mon fils. Et du coup, je me souviens qu'on était en vacances, dans un Airbnb dans le Jura, quand on a appris qu'on allait être confinés. Et comme mon conjoint pouvait faire du télétravail, et que moi, dans tous les cas, j'étais déjà à ce moment-là en congé mat, bah, du coup, on est resté là-bas. On a négocié avec la proprio qu'elle nous laisse son logement pour pratiquement rien, parce que de toute façon, elle pouvait pas le louer, quoi. Mmh. Et donc, ça a été plutôt cool, franchement, d'être parce qu'il y avait, on était vraiment au milieu de nulle part. Hein. Donc, franchement, ça, c'était, on est resté quand même un mois et demi au final là-bas. Hein. Mmh. Parce que là, moi, j'habite du coup en région parisienne dans un tout petit appart en pleine ville. Et je pense que j'aurais été beaucoup plus stressée enceinte, enfin, peur de choper le Covid, sachant qu'à l'époque, on savait pas du tout ce que ça faisait, etc. Dans cet environnement-là que là-bas où il y avait... De toute façon, il n'y avait personne. Donc voilà, donc je l'ai plutôt bien vécu quand même. J'avais trouvé une sage-femme, je me souviens, là-bas dans le Jura, qui j'avais fait quand même une consultation voilà, pour voir. Parce que ma seule crainte, c'était que du coup, on est resté tout le mois de mars. Bon, j'ai accouché le 26 mai, mais je voulais quand même vérifier le col pour voir si voilà, je ne prenais pas un risque non plus. Surtout que je marchais quand même pas mal. Donc ouais, voilà, j'ai quand même trouvé une sage-femme pour être sûre que tout allait bien, et tout allait bien, donc voilà, on est resté un mois et demi là-bas, donc bon, au final j'ai quand même bien vécu, même si, bon, quand j'en parle avec mon conjoint aujourd'hui, il me dit « Non mais si, t'étais stressée par le Covid, oui, bon, je dois être stressée naturellement, ça doit pas me... ça doit plus trop me choquer », mais bon, voilà, en tout cas, bien, ça s'est bien passé, on est retourné chez nous... Après ce confinement, je crois qu'on a été déconfinés, je sais plus trop, mais peut-être 2-3 semaines avant que j'accouche... Et puis pareil, comme pour mon fils, bon là c'était pas le soir, c'était un matin. D'un coup j'ai commencé à avoir des contractions, voilà, bon, douloureuses, donc voilà, je savais. Hein. Il était 5h du matin, donc c'était cool parce que j'avais le temps de dormir un peu. Mmh. Et donc là pareil, on va à la maternité. Donc là les papas étaient autorisés à venir, mais que à partir d'une. Quand l'accouchement était bien. À partir du moment en fait où je crois que c'est ça, où on rentre en salle de naissance, donc fallait déjà être ouverte à 5 ou 6, ou un truc comme ça. Mais bon, de toute façon, mon conjoint devait aller déposer mon fils chez son frère. Donc en fait, le temps qu'il fasse ça, au moment où je suis arrivée à la maternité, en plus ça a été quand même beaucoup plus vite cette première partie, avant d'être dilatée à 5 ou 6. Donc c'est vrai que très vite, il a pu venir avec moi. Voilà, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais déjà à 5. Le temps qu'il me pose la péri, ils me l'ont posé pratiquement tout de suite. Donc c'est vrai que j'ai pas trop souffert. Ouais, j'ai beaucoup moins souffert pour cet accouchement. En tout, il a duré 6 heures. Mais c'était... Franchement, sur les 6 heures, je pense qu'il y a eu 5 heures avec la péri, quoi. Donc, bon, voilà. Ouais. Franchement, c'était cool. Pareil, d'un coup, elle est venue me dire, bon, bah voilà, allez, on pousse. Bon, d'accord. Là, ça a bien marché. Enfin, les 3 fois, pas de soucis, ma fille est sortie. J'ai eu une petite déchirure, mais franchement, je la sentais même pas après. Donc, vraiment, je pense que c'était minime par rapport à ce que j'avais la première fois. Et donc là, c'est vrai que, bah, comme pour mon fils, exactement le même scénario, j'ai commencé à beaucoup saigner. Là, les conséquences sont différentes, mais je commençais à beaucoup saigner. Donc, pareil, ils font venir le gynéco, ils attendent, ils me gardent en observation plus longtemps. Bon, voilà. Bon, je me dis, ça va être pareil. Bon, et puis après, le gynéco regarde, il dit non, bah, Non, ça commence à s'arrêter, vous pouvez la remettre en champ. Bon, bref, pas d'alerte. Mais je perds quand même à l'hôpital beaucoup de caillots. Et moi, j'avais pas eu ce souvenir-là pour mon fils. Donc, ça que plusieurs fois, je me souviens que j'avais alerté les sages-femmes en disant mais c'est normal que je perde des caillots de sang comme ça. Elle me dit oui, oui, c'est normal, vous inquiétez pas. Bon, moi, je trouve ça bizarre quand même. C'est quand même des. Enfin, très beau, mais c'est quand même des gros caillots de sang, quoi. Mmh. Je sais même qu'à un moment, je le trouvais tellement gros, je m'avais dit est-ce que je peux me permettre de vous le montrer vraiment pour que vous rendiez compte que c'est bizarre, quoi. Non, non, bon. Et puis, comme plusieurs professionnels différents, puisque les sages-femmes, elles tournent, m'avaient dit ça. Il y avait même une gynéco qui était passée. Bon, je me suis dit, bon, bah, c'est moi qui dois. Voilà. Bon, et j'étais concentrée aussi sur mon allaitement, parce que je vais pas revenir dans le détail, ça a été exactement à peu près comme pour mon fils. Frein de langue, crevasse, etc. Bon, cette fois, j'étais déjà équipée, les positions, les machins, donc je l'ai beaucoup mieux vécu, parce que je savais que ça allait pas durer. Mais ça, je m'en suis pas trop préoccupée, même si, franchement, je trouvais qu'il y avait un truc pas normal. Mais quand les professionnels nous disent que c'est... Voilà, plusieurs, en plus, nous disent que, bon, ça arrive, oui, voilà.
Fais confiance.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, puis j'ai eu beaucoup de tranchées. Alors, je sais pas si c'est on en a beaucoup plus dans les deuxièmes accouchements, je crois. Je sais pas si ouais ça a duré quand même longtemps tout ça, donc je sais pas si c'est parce que mon corps n'arrivait pas à évacuer finalement ce qui restait. J'en ai eu autant, bon, peu importe. Voilà, bon, je me suis pas trop préoccupée de ça, donc après j'ai saigné pendant très longtemps, mais comme j'avais pas d'autres symptômes ni de parce que ce qu'on dit de on dit de faire attention si on a de la fièvre ou s'il y a des odeurs bizarres dans les pertes de sang, mais moi j'avais pas tout ça, c'était vraiment juste que j'ai saigné pendant longtemps, normalement c'est 6 à 8 semaines. Et encore, j'ai vu mon gynéco, bon, je vais en reparler, mais c'était à 8 semaines, je saignais toujours, donc c'était même pas encore fou, quoi. Mmh. Bon, donc je me suis concentrée sur ma fille, bon, bref, je saignais. Je me souviens qu'à la maison, j'avais reperdu encore un ou deux caillots, j'avais demandé à la sage-femme qui était venue à domicile, elle m'a dit non, c'est pareil, c'est normal. Bon.
Bon, toi, bah, tu te sentais voilà. Pas faible
Franchement, pas du tout. Hein. Même le jour où je suis allée chez mon gynéco au bout de 2 mois, bon, je saignais toujours, mais je pensais jamais qu'il allait me dire ça. D'ailleurs, j'avais même pas connaissance. Pour moi, le risque, c'était directement après l'accouchement de faire une hémorragie. Je pensais pas qu'en fait, après coup, comme ça, il pouvait y avoir des risques 2 mois après, quoi.
Oui.
Enfin, pour moi, je savais pas que ça existait, en fait. Donc voilà, donc ma fille, bon, pareil à la maison, même chose que pour mon fils, hein, tout pareil, l'allaitement, le sommeil. Mais bon, cette fois, je l'ai bien vécu parce que je savais, en fait, enfin, à quoi m'attendre. Je savais que ça allait pas durer. J'écoutais pas les conseils, je faisais comme j'avais envie de faire. Et voilà, c'était vraiment les mêmes types de bébés. Et donc, normalement, après l'accouchement, on nous dit de prendre un rendez-vous, tu sais, chez un gynéco pour faire les suites, pour vérifier que tout va bien. Mmh. Bon, je l'avais fait pour mon fils, bon, je l'ai fait là aussi. Et je l'ai fait du coup au bout de, ouais, ça devait être ça, 8 semaines, 2 mois. Je me souviens que j'avais pris rendez-vous le jour de mon anniversaire, le 13 juillet. Pourquoi ? Je crois que parce que je bossais pas, ou il y avait un truc comme ça. Et du coup, voilà, j'étais allée dans ma ville, ça me prenait 2 secondes, je pensais que ça allait durer 2 minutes, j'allais vérifier, tout va bien, etc. Ouais. Et ça que je lui ai dit que je saigne, bon, il avait un appareil pour faire les échos, là. Donc il regarde, et là il me dit, ah bah oui, bah, vous avez plein de débris placentaires. Bon, je dis, bon, quoi, déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc bon, au début, je lui dis naïvement, bah, vous pouvez me les enlever, ou c'est grave, ouais. Et je me souviens qu'il était... Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit ? Bah non, bah, va falloir soit vous prenez un médoc pour essayer de les expulser, pour déclencher des contractions. Après, il faut aussi vous mettre sous antibio, ou alors faudra vous faire opérer, faire un curetage. Je dis quoi ? Et il me dit, ouais, puis il faut faire ça maintenant. Enfin, faut faire ça tout de suite. J'ai dit, mais vous pouvez me faire ça ? Non, faut aller aux urgences de la maternité, c'est là où vous avez eu le souci, donc faut retourner là-bas. Et puis alors là, ce qui a été dur, c'est que je dis, mais moi j'allais être ma fille, je peux pas m'absenter comme ça de ma fille, je vais pas l'emmener aux urgences déjà. Et puis, vous me parlez d'antibio, de curetage, comment je fais pour l'allaiter, quoi. Ah bah, faudra arrêter. Je dis, quoi ? Donc là, je me souviens que je suis ressortie. Puis vraiment, la consultation, en plus, ça a été très rapide, c'était pas mon gynéco habituel. Parce que du coup, avec le Covid, etc., j'avais pris je voulais pas aller en plein Paris, prendre des transports, etc., donc j'avais pris celui qui était au plus près. Bon, très expéditif, quoi. Donc voilà, là je sors du truc en pleurant, parce que j'avais peur pour moi, hein, en toute honnêteté, parce qu'il m'avait déjà parlé des risques, hein, donc les risques en fait c'est de faire une hémorragie, donc c'est très grave, de faire aussi une septicémie s'il y a une infection finalement dans l'utérus à cause de ces débris en fait, donc c'est des petits débris du placenta qui sont pas évacués. Donc, y a des femmes qui font de la fièvre, hein, que ça permet d'alerter, bon bah moi j'en ai pas fait, ou il y a des femmes qui ont des pertes un peu jaunes, enfin, qui laissent penser qu'il y a une infection, quoi, ou qui perdent vraiment énormément de sang en quantité, donc peut-être ça donne des alertes. C'est vrai que maintenant, j'ai juste saigné, en fait, longtemps, et ça se serait pas arrêté si je m'étais pas fait. Bon, au final, je me suis fait opérer, mais voilà, ça se serait pas arrêté comme ça, tout seul, quoi. Donc, non, je sors de là un peu démoralisée, et surtout, voilà, pas parce que j'avais peur pour moi, Mais parce que j'avais peur pour mon allaitement, en fait. Je me suis dit, mais attends, mais je peux pas arrêter d'allaiter ma fille comme ça au bout de 2 mois d'un coup. La pauvre, enfin, elle a jamais pris de biberon, elle sait même pas ce que c'est. Ouais. Et il faut que j'aille aux urgences. Et en plus, aux urgences, je sais très bien comment ça se passe. C'est qu'on sait pas quand on va ressortir, quoi. Ouais. Donc, moi, ma fille, elle mangeait à ce moment-là, je crois, à peu près toutes les 3 heures. Donc voilà, très stressée. Donc je rentre chez moi, je me souviens, je l'allaite. Et je pars direct aux urgences. Non, d'abord j'appelle et puis je leur dis, bah, il faut que je prenne un rendez-vous, ce sera peut-être mieux, enfin, pour voir, enfin, une consultation. Au début, je m'étais dit, je vais peut-être pouvoir faire une consultation. Comme ça, j'ai un horaire et ce sera plus pratique pour ma fille, pour l'allaiter, pour m'organiser avec mon conjoint. Et là, il me dit, non, il faut passer par la case urgence. Donc voilà, bah, j'y vais, je crois, le jour même, le soir même, ouais. J'allaite ma fille en me disant, ma maternité est pas loin de chez moi, je suis à 10-15 minutes en voiture. Ça c'est cool, et je me dis, bon bah à tous les coups ça va durer 3 heures, et comme ça je réussirai à revenir pour les 3 heures. On achète quand même en urgence, même si elle avait jamais pris un biberon jusque là, donc je sais même pas si elle l'aurait accepté, cette première fois en tout cas. Donc on achète des biberons, on achète du lait en poudre, et puis on se dit, bon bah au cas où mon conjoint essaiera. Hein. Ouais. Et je pars du coup aux urgences, donc là j'attends. Au final j'ai dit, ouais, ça a dû durer 3 heures quand même à peu près en tout, parce que mon conjoint n'avait même pas. Je crois qu'il avait essayé de lui donner un biberon, ça avait pas marché. J'étais rentrée pas longtemps après, donc ça avait. Voilà, ça avait été pour ma fille. Mais ouais, j'ai attendu quand même. Bah, 3 heures, ça paraît quand même long, hein. Surtout quand on est en stress comme ça, de ne pas savoir si sa fille va réussir à prendre des biberons. Ou... Puis je me disais, bon là, je savais que ça allait pas durer tant de temps que ça, parce que. Ils allaient pas me faire le curetage comme ça d'un coup le jour même, ou. Enfin bon, j'étais quand même très stressée, mais ça a été pire la deuxième fois que je suis retournée aux urgences. J'en reparlerai. Mais voilà, donc là, ils me prennent en consultation, au bout de 3 heures, je crois, en me disant, bon bah, vous allez d'abord essayer un traitement. Je crois que c'est quelque chose qu'on donne. Je sais pas si c'est le médicament pour déclencher les contractions, si c'est le médicament pour quand on veut avorter, ou enfin, un truc qui déclenche des contractions fortes. Donc ils me disent, vous prenez ça demain matin chez vous tranquillement, et en fait peut-être qu'avec de la chance ça va évacuer tout seul et ça permet d'évacuer tout seul les débris placentaires.
D'accord.
Ce serait la solution finalement la mieux. Donc je parle de mon allaitement. On me répond la même chose. Ah bah oui, c'est peut-être pas bon, mais franchement ils en savent rien en fait. Enfin. On dit déjà, bah oui, vaut mieux arrêter, mais moi, non, enfin, il faut me trouver une solution, quoi. Et en lisant, évidemment, je me renseigne sur Internet, j'appelle, je me souviens, ma sage-femme, la même, hein, qui était vraiment cool, en lui demandant des conseils, qui me dit, non, mais attendez, faut peut-être pas arrêter, il faut peut-être juste tirer son lait juste après pour pas qu'elle boive le lait directement qui a eu finalement la dose du médoc. Enfin, il y a des solutions, quoi, c'est pas non, vous arrêtez. Et en plus, souvent, les médecins, ils te le sortent comme ça, comme si c'était...
anodin.
Ouais, alors que tu t'es battu déjà pendant 10 jours, enfin, parce que t'as galéré avec les crevasses. Enfin, non, c'est pas anodin quand c'est un projet et qu'en plus ça marche et que ça se passe bien. Mmh. Au bout de 2 mois, t'as pas envie d'allaiter comme ça, quoi. Puis ton bébé, en plus, il est content d'être sain. Enfin, bon, bref, voilà, il te le sort comme ça. On l'avait ressorti comme ça à la maternité. Enfin, aux urgences de la maternité, ouais, ça m'avait énervé parce qu'il m'avait aussi mis sous antibio. Donc, pareil, les antibios, je leur demande, mais les antibios avec l'allaitement. Ah, bah oui, c'est pas top, c'est pas conseillé. Bon, voilà. Et en vrai, il faut regarder sur le site du CRAT pour déjà tous les CRAT, là, où tu tapes le nom du médicament, tu tapes même le nom d'ailleurs, enfin, de tout type de médicament, et ils te disent si c'est déconseillé ou pas pendant l'allaitement.
D'accord.
Donc là, j'avais vu pour les 2 trucs que j'avais pris, bon, il fallait mieux éviter évidemment si on pouvait, mais il n'y avait pas de danger connu sur l'allaitement. Donc heureusement, j'ai pu continuer. Mais parce que je l'ai lu moi-même, hein, et parce que ma sage-femme m'a aiguillé là-dessus. Mais sinon, franchement, non, j'ai eu 2 fois le même discours de la part des médecins, quoi. C'est. Voilà. Bah non, bah vaut mieux arrêter. Bah oui, mais on n'arrête pas comme ça. Enfin, voilà. Bon, bref. Donc je rentre chez moi. Le lendemain, j'allaite ma fille très rapidement qui n'en pouvait plus. Donc ça faisait 3-4 heures. Donc c'est. Heureusement, elle avait tenu. J'allaite ma fille. Et puis le lendemain matin, du coup, je prévois de rien faire de la journée. Je prends cet antibio-là. Je m'attends à avoir très mal parce qu'apparemment, bah, ça fait des vraies contractions, hein. Donc je flippe un peu au début, je me dis, oh là là, je vais recommencer à avoir des contractions comme si j'allais accoucher. Mais ça me fait rien. Franchement, rien du tout de la journée, j'ai attendu. Je me dis, bon, bah, j'ai fait ça pour rien, quoi. Donc ça m'embête un peu parce que j'avais espoir. Voilà, que. Donc je rappelle la maternité, je me souviens, je dis, bon, bah, là, je suis sûre que ça n'a rien fait, donc donnez-moi un rendez-vous pour un curetage parce que ça n'a pas fait de contraction, donc forcément, les débris sont toujours là. Ah bah non, faut quand même vérifier, parfois, on sent pas trop, mais ça permet quand même d'évacuer. Et ils voulaient pas, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est pareil dans toutes les maternités, ils voulaient pas me donner un rendez-vous pour un curetage en fait. Enfin, fallait forcément que je repasse par la case urgence pour qu'ils regardent encore dans l'utérus s'il y avait les débris. Donc fallait refaire ce truc d'urgence, donc potentiellement passer des heures. Ensuite, fallait qu'ils trouvent une place pour un curetage, donc y passer la journée. Donc là, je me suis dit, là je sais. Donc j'avais prévu d'y retourner le lendemain matin. très tôt, au plus tôt possible. Il m'avait dit, venez à l'ouverture, comme ça, potentiellement, ça ira plus vite. Je savais que la journée, ma fille, elle fallait qu'elle mange, quoi. Donc là, il allait falloir... Donc j'achète plusieurs... On essaye la veille avec mon conjoint de lui donner un biberon. Elle refuse le biberon. Donc là, je me suis dit, ça va être horrible. Je sais pas. Donc j'achète plein de marques de biberons différentes. J'achète plusieurs laits différents. Je me dis, bon, bah, il va essayer. Hein, il va... Et donc, je pars le matin hyper angoissée en me disant... Bon, là, c'était plus le souci du médicament ou... qui allait m'empêcher d'allaiter. C'était plus, comment est-ce qu'elle va prendre le biberon pour se nourrir? Je veux bien qu'elle prenne un biberon. Moi, j'avais prévu, j'avais acheté un tire-lait en urgence parce que j'avais même pas commandé de... Tu sais, quand tu allaites, tu peux prendre avec gratuitement la pharmacie, tu sais. La sécu te rembourse ton... un tire-lait pour que tu puisses tirer ton lait. Moi, je déteste tirer mon lait de base, donc j'en avais même pas prévu là. Donc j'en achète un manuel en urgence en pharmacie parce que, bon, bah, j'allais pas tenir une journée sans tirer mon lait, quoi. Ouais. En me disant, bah, j'espère qu'aux urgences, je vais trouver un endroit pour tirer mon lait. Ou... Puis je voulais pas perdre, j'avais aussi peur de ça, de perdre finalement mon... Enfin, que je produise moins, ou enfin, j'en sais rien, quoi. Bon, heureusement, ma sage-femme, heureusement, qui était là tout du long, franchement, par message, je me souviens, pour me rassurer, voilà, me disant que c'était pas une journée, si je tirais un petit peu, ça allait rien faire pour mon allaitement, quoi. C'était plus ma fille qui allait se nourrir, mais bon, elle me rassurait en me disant, de toute façon, elle va pas se laisser mourir de faim, vous inquiétez pas. Et au final, ça s'est bien passé, enfin, parce que je suis partie le matin. Au final, j'ai passé la journée, je me souviens que je suis partie à 7h, je suis rentrée chez moi, il était 18h. Je vais raconter un peu la journée, mais. Et elle a pris un biberon dans la journée et elle a accepté. Et ce sera le seul biberon qu'elle a accepté de prendre avant des mois, puisque j'ai galéré de fou à sevrer ma fille. Donc, comme quoi. Mais elle a dû savoir quand je suis partie que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Alors que quand j'ai essayé de la sevrer, quand elle avait 5 mois, bon, elle savait que j'étais à côté, que potentiellement je pouvais l'allaiter, donc je pense que c'était différent. Mais elle a accepté ce biberon et heureusement, quand mon conjoint m'a dit ça, et que j'étais à la maternité, j'étais tellement heureuse. Voilà, bon, donc elle a pris son biberon, donc ça c'était cool. Après, bon, voilà, j'ai attendu aux urgences. Donc il revérit, donc j'attends vachement longtemps et là je me sens que ça s'est très mal passé parce que à ce moment-là ma fille avait pas encore pris son biberon et donc je me sens que j'attendais, il y avait plein d'urgences devant moi de femmes enceintes, mais normal hein, qui allaient accoucher, enfin des trucs bien plus urgents que moi. Moi c'était juste des débris placentaires. En plus j'avais déjà été sous antibio, donc le risque d'infection finalement il était écarté, fallait juste les enlever quoi. Donc j'attends longtemps et puis je vois l'heure qui passe, je dis non mais il est 11h, c'est pas possible, je suis même pas passée par la case urgence, il faut que je fasse le curetage après qui n'est même pas programmé, donc est-ce qu'ils vont pouvoir me le faire? Et ma fille, bah, j'espère qu'elle va réussir à se nourrir quoi. Bon, elle a réussi au final hein, à prendre un seul biberon dans la journée, mais elle en a pris un. Mais au début je le savais pas quoi, donc je me souviens j'insistais aux urgences, je dis mais si, mais juste faites-moi cet écho quoi, et après vous m'envoyez vers les curetages et comme ça vous vous occupez des vraies urgences quoi. En plus j'avais mal au sein de fou parce que ça commençait à faire super mal et dans les urgences en fait j'ai pu tirer mon lait après en chambre, mais dans les urgences il n'y avait aucun endroit pour s'isoler et je sais pas, je me voyais pas tirer mon lait comme ça. En plus j'étais en pleurs et j'ai insisté. Bon, au final je me souviens que mon conjoint a même appelé les urgences en disant c'est inadmissible. Enfin, vous aviez qu'à lui donner un rendez-vous, tu vois, pour un curetage, quoi, au lieu de lui faire perdre son temps comme ça, alors que je me souviens qu'il avait même exagéré en disant, mais voilà, ça, notre fille se nourrit plus. Enfin bref, ils m'ont quand même prise parce que ça prenait 2 secondes, il fallait juste faire une écho. Oui. Mais quelqu'un d'autre, c'est ça que je comprenais pas en fait, quelqu'un d'autre des urgences aurait pu me le faire, parce que je comprends que les urgences soient pour les vraies urgences, les femmes qui attendent des bébés, etc. Mais voilà, bon, bref. Donc ils me la font, donc en effet, il y a toujours les débris placentaires, hein, rien de fou. Donc là, ils me disent, bon bah oui, donc curetage ou aspiration, donc anesthésie, oui, parce qu'il y avait ça aussi. Donc anesthésie générale, et je dis, bon bah anesthésie générale, avec j'allaite ma fille, comment je fais? Ah bah oui, non, alors là, surtout pas, hein, faut pas l'allaiter. Oh, là, nouveau stress, anesthésie générale, donc je regarde sur le site du CRAT, non, c'est pas tout à fait ça. Je vois des témoignages de mamans qui ont vécu un peu la même chose. Non, en vrai, c'est pas ça. Faut mieux éviter de donner le premier lait suite à l'anesthésie générale, mais après, si, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'ils conseillent de faire, en fait, c'est de... Je dis ça, attention, hein, de ce que j'avais lu à revérifier aujourd'hui s'il y a d'autres données, mais je me sens que j'avais du coup... En fait, du coup, il fallait tirer son lait juste après l'anesthésie générale, le jeter à la poubelle, ce qui n'était pas bon. Et après, voilà, c'était juste le lait produit pendant cette anesthésie-là qu'il fallait pas donner à son bébé. Donc voilà, entre les discours pareils et voilà. Mais j'avais le choix entre une anesthésie générale et une péridurale.
D'accord.
Donc pareil, le produit qu'il te mettait n'était pas non plus tip-top pour l'allaitement, mais c'était quand même mieux. Donc j'ai choisi la péri. J'ai quand même jeté mon lait après avoir été opérée. Donc ils me refont la péri, donc un peu bizarre de retourner là où t'as accouché pour ça. Donc en plus là t'es au bloc. Bon, au moins je vois un peu ce que vivent les femmes quand elles qui font des césariennes.
Ouais.
C'est ça qui fait super froid, c'est horrible. Enfin c'est un lieu, enfin c'est une chambre d'opération. Enfin c'est vraiment, ça fait vraiment hôpital. T'es opéré quoi, donc c'est pas la même ambiance. Et donc, bon, par contre, ça fait pas mal, évidemment, tu sens rien. Hein, donc, c'est très rapide, un curetage. Donc, ça a été fait, je sais plus, dans l'après-midi. Avant ça, j'ai dû être en chambre. Parce qu'évidemment, ils te font pas le curetage tout de suite, hein, après les urgences. Hein, faut que tu prennes un. Faut qu'ils voient si le médecin est disponible, etc. Donc, c'est très long. Hein. Ça m'a pris la journée. En chambre, heureusement, j'ai pu tirer mon lait avant de faire le curetage. Après, j'ai fait le curetage. Je suis retournée en chambre. Après, bon, bah, faut attendre de pouvoir marcher pour rentrer chez soi. Donc là, pareil, j'avais envie que ça. Non, fallait attendre même de pouvoir faire pipi toute seule. Je me souviens de ça parce que j'avais tellement envie que ça aille vite en me disant, bah, faut vite que je rentre, même si ma fille avec ses petits biberons, je me disais, bon, bah, plus vite je suis chez moi. Et ça met longtemps en fait. Hein, le temps de. Finalement, avec l'anesthésie générale, je pense que ça aurait été plus rapide que la péri à s'en remettre. Parce que bon, bah, la péri au début, on est vraiment anesthésié tout bas, quoi, donc tu peux pas marcher, ouais. Faire pipi, j'ai galéré. Puis je pense que comme j'étais stressée, j'avais tellement envie de réussir à faire ça, parce qu'ils te laissent sortir que quand t'arrives à faire pipi, parce qu'ils considèrent que du coup tu peux. Ouais. Parce qu'il y a un risque, je crois, si tu fais pas pipi. Bref. Donc bon, bref. Je réussis vers 18h, donc je rentre chez moi. Et heureusement, voilà, rien d'autre à faire, curetage, juste à vérifier si chez un gynéco, quelques semaines plus tard que voilà, normalement tout est bien parti hein, avec le curetage, mais voilà, juste faire un check.
Mais ils t'ont expliqué un petit peu pourquoi il s'agissait, pourquoi ça avait
franchement, été non, regardé avant. Internet. Franchement, non. Mon gynéco, cette fois j'ai pris mon vrai gynéco, un bon gynéco pour faire mon post-opératoire, pas celui que j'avais vu avant. Qui m'avait annoncé ça, parce qu'il m'avait pas expliqué grand chose, il m'avait parlé des risques en fait. Et lui, il m'a dit qu'en fait, ce qui aurait dû être fait quand t'as des caillots comme ça, c'est de faire une révision utérine. Donc en fait, grosso modo, dès que t'accouches, je crois que c'est la sage-femme ou le gynéco qui fait ça, je sais pas, qui met ta main dans ton utérus et qui, j'imagine, essaye de retirer au max des trucs, si elle trouve des trucs en fait. En fait, souvent, ils osent pas trop le faire parce que ça fait très mal, mais j'imagine si t'es pas sous péri. Parce que si t'es sous péri, direct après avoir accouché, moi ma péri faisait toujours effet, tu vois. Donc ça m'aurait pas vraiment fait mal. Alors ça doit peut-être être pas très agréable, mais j'aurais préféré avoir ça plutôt que tout ce que j'ai eu derrière, quoi. Parce que même si au final il y a rien de dramatique, ça m'a créé du stress, c'était vraiment pas cool, quoi. Enfin, et puis c'est très mal expliqué. Et non, du coup, le gynéco que j'ai aujourd'hui et qui est très bon disait, mais non, faut absolument que ce message passe auprès des personnels de santé. C'est n'hésitez pas à faire, si vous avez un doute comme ça, si la patiente elle perd des caillots, enfin. Puis si vous avez un doute quand même, parce qu'ils ont quand même appelé le gynéco, tu vois. Bon, au cas le placenta, quand ils l'ont sorti, il avait l'air complet, tu vois, mais non, au final, il devait y avoir des débris, c'était peut-être des trucs. En plus, j'en avais quand même plusieurs, hein, donc c'était pas juste un petit débris, quoi. Ouais. Peut-être que, donc c'est sûr que je vois pas du tout à quoi ressemble le placenta, j'ai pas souhaité le regarder, mais bon, j'imagine que ça doit être difficile à voir, mais si, en cas de doute, surtout quand la patiente elle a une péri qui fait encore effet, voilà, faut pas hésiter à faire cette révision utérine. C'est quand même plus prudent, surtout que moi, mon cas, finalement, ça, j'ai pas fait de septicémie ou d'hémorragie ou de trucs graves, mais potentiellement, sur d'autres personnes, il peut y avoir des cas vraiment beaucoup plus graves. Donc voilà, je trouve ça dommage, hein, surtout quand la patiente. Enfin, même dans tous les cas, en fait, hein, de prendre un risque quand on a un doute comme ça. Hein. Puis perdre des gros caillots comme ça, oui, ça peut être normal de perdre certains caillots, mais comme ça aussi longtemps, plusieurs fois, je sais pas. Puis si vous. Enfin, je pense que si on a. En fait, j'avais un pressentiment, de toute façon, qu'il y avait un truc bizarre. Mais il y a tellement de professionnels qui m'avaient dit que c'était normal, que bon, bah, moi, je leur fais confiance, quoi. Mmh. Donc, si je raccouche une troisième fois, je leur dirais, faites-moi cette révision utérine, quitte à ce qu'il n'y ait rien au final, c'est pas grave, au moins, voilà, je suis sûre que... Voilà, parce que bon, pour moi, ça, c'est bien fini, mais voilà, c'est vraiment... Non, vraiment, c'est pas anodin, les débris placentaires, ou... Parce qu'on pense souvent, en fait, hémorragie, tout de suite, tu sais, après l'accouchement. On pense pas forcément que c'est quelque chose qui puisse arriver de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas connaissance qu'il peut y avoir des débris placentaires comme ça qui restent, tu vois, 2 mois plus tard, quoi. Mais en fait, ici, ça existe. Hein, donc, vraiment, si vous voyez que vous. Enfin, si, pour les mamans qui m'écoutent, si vous saignez pendant trop longtemps, c'est que. Plus de, ils disent 6 semaines, ou même s'il y a des odeurs, enfin, ou si vous avez un pressentiment qu'il y a un truc pas normal, quoi. Parce que moi, je sais, quand je saignais, certains jours, ça s'arrêtait, je saignais plus, puis ça recommençait. Bon, voilà. J'étais tellement obnubilée par ma fille que je. Voilà, j'ai pas, peut-être pas fait trop attention, mais voilà, vraiment, faut pas hésiter à consulter un gynéco qui a un appareil qui peut regarder dans l'utérus, et en 2 secondes, lui, il saura, de toute façon, s'il y a un truc. Oui. Hein. Voilà, et à se les faire enlever. Donc voilà, après tout ça, je reprends l'allaitement normalement, parce qu'au final, ça c'est. Voilà, j'ai pas souhaité redonner de biberon tout de suite, donc j'ai allaité ma fille comme mon fils. Hein, ouais, j'ai commencé à essayer d'arrêter vers 5 mois, mais au final, elle a été allaitée 6 mois, parce qu'elle a refusé les biberons. J'ai fait un rendez-vous du coup post-opératoire avec un gynéco que j'aime beaucoup, qui est très bien à côté de chez moi. Et donc lui, il m'a même conseillé de faire une autre opération suite à ça. Donc là, pour le coup, qui est juste cher, mais qui est pas, qui, enfin voilà, ça se fait très rapidement, ça se fait en cabinet gynécologique, c'est une hystéroscopie, un truc comme ça, pour enlever les éventuelles synéchies qui pourraient s'être créées dans l'utérus. Donc les synéchies, je crois que c'est... ça cicatrise mal, en fait, ça fait comme des petits bouts de peau, de, je crois, dans l'utérus. Du coup, ça peut causer pas mal de fausses couches ou de... Ça peut empêcher de tomber enceinte, enfin voilà. Donc vaut mieux vérifier, donc ça se fait... faut prendre un rendez-vous avec son gynéco. Bon, c'est pas en... Enfin, moi, c'était pas remboursé, en tout cas, donc ça, je me souviens du prix, parce que c'est... Ouais, c'était... c'est pas anodin, ça devait être 130€ ou 150€, c'était peut-être parce que c'était mon gynéco, mais... Mais ça fait pas mal, y a pas d'anesthésie, y a rien du tout... Mais en fait, grosso modo, bon voilà, avec un tout petit truc, il t'injecte plein d'eau dans ton utérus. Et ça permet d'enlever les synéchies. Voilà, et j'en avais une, donc bon, bah, il me l'a enlevée. Ouais, 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 une. Donc, comme quoi, bon, je savais même pas que ça existait, ça. Mais du coup, pareil, c'est important en cas de curetage de peut-être faire ce check avec un gynéco. Bon, moi, c'est parce qu'il est bon, hein, mais ça se trouve, si j'avais eu un mauvais, on m'aurait rien fait. Et voilà. Donc voilà, donc encore un acte, bon, pour le coup, qui était quand même assez, assez anodin. Donc voilà, mais bon. J'aurais préféré quand même me passer de tout ça. Donc voilà, donc après ma fille a bien grandi, j'ai essayé de la sevrer, ça a été une vraie galère. Donc c'est important aussi d'en parler. Hein. On y arrive au final, parce que c'est vrai que sur le coup je me disais, mais elle va jamais prendre de biberon de sa vie. Parce que mon fils, moi je l'ai passé au biberon du jour au lendemain, il a accepté, il a rien dit. Et ma fille, pareil, j'ai dû acheter des. Oh, je sais pas, des marques, plein de marques de biberons, des laits différents. Et puis j'allais reprendre le boulot, donc j'étais en stress. Et puis pour le coup, moi, je m'étais toujours dit j'allaiterais mes enfants 6 mois. Et voilà, après, j'avais pas envie. Enfin, c'était vraiment... Je savais dans ma tête que j'avais envie d'arrêter, quoi. Mmh. Parce qu'en plus, bon, bah voilà, j'avais envie de recommencer à pouvoir me faire des week-ends toute seule, enfin, sans eux. Enfin, et quand on allait, bon, bah, il y a quand même des contraintes, hein. Donc voilà, et de ne pas pouvoir comme ça. Et puis ça a duré vraiment, hein. Elle a pris zéro biberon pendant un mois, quoi. Enfin, une vraie galère, quoi. Ouais. Ou alors, elle buvait une gorgée et non, quoi. Et j'ai essayé plein de techniques, pareil, j'ai lu plein de trucs. Donc là, franchement, j'ai pas eu de dépression postpartum, de trucs comme ça. Enfin, dépression, c'est fort comme mot, mais je sais plus comment on appelle ça. Mais,
baby blues.
Ouais, voilà, enfin, ça a été dur, l'allaitement, etc. Mais je parlerai pas de baby blues. Franchement, non, parce que je m'attendais à tout ce que j'ai vécu. Mais ça, ça a été. Là, j'ai vraiment très mal vécu pendant un mois. J'étais vraiment déprimée parce que je me sentais bloquée, en fait. Complètement bloquée. Puis j'étais toute la journée avec ma fille toute seule. Et je me souviens que tous les jours, du coup, j'essayais toute seule parce que mon conjoint, bah, il travaillait, hein, normal. Enfin, ne pouvait pas m'aider, mais tout, moi, j'étais toute seule en fait à essayer de lui faire essayer des biberons, des machins, et puis je vois que ça marchait pas, quoi. Et puis vraiment, ça ne marchait pas. Et un mois. Et au bout d'un mois, bah, franchement, il n'y a rien pareil. En fait, quand elle a été prête, bah, à force de lui faire essayer tous les jours, bah, elle a pris, quoi. Mais un mois, franchement, là, j'ai été vraiment déprimée, là. Franchement, j'avais l'impression d'être bloquée, et là, comme je ne connaissais pas ce. Je ne pensais pas qu'un sevrage pouvait être aussi compliqué. Bon, j'avais pareil une sage-femme super et une conseillère en allaitement qui m'avait donné plein de conseils, mais. Mais voilà, donc comme quoi, pareil, ça passe et ça ne dure pas. Voilà, c'est rare les bébés qui acceptent jamais de leur vie de sevrer du sein. D'ailleurs, je pense que ça n'existe pas. On n'a jamais vu d'adultes de 15 ans, bref, prendre le sein de leur mère. Voilà, bon, voilà, mais ça passe. Mais sur le coup, ouais, c'est un peu déprimant, quoi, parce qu'on se sent bloqué.
Et alors aujourd'hui, où t'en es de la construction de ta grande tribu
Alors ma grande tribu, on est que 4, c'est déjà bien. Hein,
ouais.
Ma fille a 15 ans, donc pour l'instant, voilà, on sort tout juste, elle commence tout juste à bien dormir, donc on commence tout juste à, entre guillemets, reprofiter un peu de plus être fatiguée en fait, donc ça c'est cool, moi j'ai repris mon travail, donc on commence un peu à trouver notre rythme, voilà, avec les deux ça se passe, franchement, mon fils est super content d'avoir sa petite sœur, donc franchement ça se passe très bien. Mais moi, oui, mon projet, pour l'instant, c'est un projet perso d'avoir 3 enfants. Mais j'espère qu'il deviendra un projet. Un projet, ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait une deuxième fausse couche. Bon, là, c'était pas. Du coup, j'ai pas repris la pilule suite à mon deuxième accouchement, là. Parce que, bon, j'arrive. Depuis que j'ai accouché, c'est assez étrange. J'arrive à savoir pile poil le jour où j'ovule. Okay. Mais vraiment, hein, je ressens une pression en bas du. Ça m'avait jamais fait ça. Bon, tu me diras, avant, j'étais sous pilule. Hein. Mais du coup, en fait, c'est facile de calculer. Puis bon, on n'a pas non plus des rapports tous les jours, hein, depuis nos enfants, donc c'est assez facile de calculer pour pas tomber enceinte, en fait. Et c'est vrai que ce jour-là, bon, je pense qu'inconsciemment, j'ai tellement envie d'avoir un troisième que j'ai dû avoir cette douleur et j'ai dû savoir avant d'avoir un rapport que j'avais ovulé peut-être la veille ou un truc comme ça, mais c'était le jour de la Saint, je me souviens, c'était le jour de la Saint-Valentin. Donc bon, on n'a pas fait attention, mon conjoint non plus d'ailleurs, quand on en reparle, lui non plus. Oui. Faisait confiance entre guillemets, enfin voilà. Puis bon, voilà, c'était à Saint-Valentin, donc je suis retombée enceinte. Bon, pour le coup, c'était pas du tout, du coup, c'était pas du tout prévu. Mon conjoint, en plus, pour l'instant, veut pas, enfin, en tout cas, pas tout de suite, veut pas du tout de troisième. C'est un grand débat entre nous. Bon, on l'aurait gardé dans tous les cas, ça avait marché, mais bon, là, bon, j'ai su tout de suite parce que moi, direct prise de sang, j'étais à un taux de 75, pareil, 3 semaines, je dis, oula, bah, je sais, 75, fausse couche, donc pour le coup, je l'ai moins, beaucoup moins. Puis c'était pas prévu, donc c'est pas pareil quand même, hein, que quand c'est vraiment quelque chose d'attendu, etc. Bon, voilà. Mais donc, non, projet, ouais, j'aimerais bien avoir un troisième, et puis cette fois, j'aimerais bien, je pense, accoucher sans péridurale, ou, bah, sachant que ça va être ma dernière, parce que c'est sûr que si j'arrive à négocier le troisième, je sais que ce sera ma dernière grossesse. Hein. 4-5, ça restera mon rêve de petite fille. Mais 3, franchement, ça me va bien. Je serais très, très épanouie avec ça. Et du coup, ouais, peut-être essayer d'autres choses. Tu vois, typiquement, j'avais pas voulu voir mon placenta. Bon, je me dis, bah, c'est con de pas voir à quoi ça ressemble quand même. Bon, puis j'ai pas envie de regarder sur internet à quoi ça ressemble, je préfère voir le mien. Ouais. Donc, ouais, peut-être essayer d'accoucher sans péri, vraiment. Je pense que ça fait très mal, mais j'ai vraiment envie, pour la dernière grossesse, de. Enfin, attends, je dis ça comme si ça allait arriver, mais je le souhaite, hein, j'espère vraiment. Parce que je pense que j'aurais une vraie frustration si c'est pas le cas. Je souhaite vraiment l'avoir et du coup, prendre conscience. Je pense que c'est ça qui est difficile dans la maternité, enfin, quand c'est le dernier. J'ai envie de savoir que c'est le dernier, tu vois. Là, pour mon deuxième, mon conjoint s'était toujours dit 3, donc pour moi, c'était pas la dernière, quoi. Donc là, vraiment, j'ai envie de faire des prépas à l'accouchement. Bon, là, avec le Covid, de toute façon, j'en ai pas fait pour la deuxième, mais plus des trucs naturels, enfin, peut-être du yoga. Ou... Voilà, donc j'espère vraiment pouvoir avoir un jour, pas tout de suite, parce que de toute façon, ma fille, elle a un an, donc potentiellement, si j'arrivais à négocier dans un an. Avec mon conjoint, ouais, ce serait vraiment cool, quoi. Et puis, si c'est des jumeaux, ce serait cool. Comme ça fait 4 d'un coup. Enfin, 4 d'un coup. 4 en tout. 2 d'un coup. Voilà, je pense que mon conjoint, ouais. Non, il me quitte. Ça le ferait pas. Mais voilà, donc, ouais, ce serait...
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Ça a tout changé. Ça m'a rendue vachement patiente, parce que moi, de base, je suis pas quelqu'un de patiente. Et en plus, c'est marrant, parce que je pensais pas... Enfin, l'éducation que je donne aujourd'hui à mes enfants, je pense pas du tout que ce serait celle-là... J'ai mon BAFA, donc je m'occupais déjà de... je faisais les centres de loisirs, les colos, tout ça, pendant pendant que j'étais jeune, en fait. J'étais assez stricte, très sévère, etc. Et en fait, mais pas du tout comme ça avec mes enfants, quoi. Donc c'est assez marrant, donc... voilà, je sais pas si c'est mon caractère qui a évolué en ayant des enfants, mais ouais, je suis très patiente, franchement, enfin, tant mieux, hein, parce que franchement, parfois, faut l'être, hein. Alors, je dis pas que c'est pas dur, hein, attention, hein, mais ouais, ça m'a rendue vraiment patiente, en tout cas avec eux. En tout cas sur ce point là ça m'a rendu bon, j'étais déjà inquiète, tu me diras, mais en fait je pense que je suis inquiète juste autour de mes enfants, quoi, parce qu'à partir du moment où ils sont dans mon ventre, même la première journée, je pense que je suis inquiète pour eux, quoi. C'est vrai que c'est ça qui est un peu dur, c'est de, enfin, pour moi je suis hyper heureuse d'avoir des enfants, etc., mais c'est vrai que d'être inquiète pour d'autres personnes que pour soi, en fait. Et puis là, on est encore plus, enfin, les parents, c'est pas pareil, enfin, j'aime mes parents, hein, plus que tout, mais je m'inquiète pas pour eux au quotidien, en fait, je sais pas. Les enfants, ouais, je sais pas, j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose, et j'ai même peur qu'il m'arrive quelque chose, mais pas pour moi, parce que je m'imagine leur douleur, hein, à ce qu'ils perdent leur... enfin, s'ils perdaient leur mère, ou leur père d'ailleurs, peu importe, les deux, mais... et ça, c'est vrai que cette peur de la mort, je l'avais pas, quoi. Enfin, je l'ai pas parce que j'ai peur, moi, de mourir, je l'ai peur vraiment parce que je veux pas qu'ils perdent leur mère un jour, et puis je vois des cas de trucs dramatiques comme ça, et... Voilà, donc c'est vrai que je pense que j'étais déjà inquiète, mais... Je suis pas inquiète pour d'autres choses, voilà, sur le boulot, l'argent, tout ça, c'est vraiment pas des trucs qui m'inquiètent, ou... enfin, mais vraiment sur mes enfants, et je pense qu'à partir du moment où ils étaient dans mon ventre, ça a été le cas, quoi. Peur qu'il leur arrive quelque chose, ouais, donc je suis plus inquiète qu'avant, ça a changé. Je suis plus heureuse aussi, je dirais, parce que bon, franchement, je suis super heureuse d'avoir des enfants, même si c'est dur, même si... voilà, et puis plus ils grandissent, plus je trouve que c'est cool, on peut avoir des discussions, on peut... voilà, mon fils, il a 3 ans et demi, là, je trouve ça génial, quoi, enfin... partage vraiment des trucs, on commence à faire des jeux de société ensemble, enfin c'est vraiment voilà, je préfère à cet âge-là que bébé, je pense, enfin bon, mais ouais, donc du coup, ouais, non, ça a tout changé, et ça a changé en positif, hein, même si je suis plus inquiète, bon bah voilà, de toute façon c'est comme ça, hein, je pourrais pas le changer, donc suffit, je vais essayer de travailler dessus pour m'en détacher, et voilà.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
C'est avoir tout. Ce qui est cool, c'est d'avoir tout à proximité. Enfin, moi, ce que j'aime. Bon, j'ai pas le permis, hein, déjà, donc c'est vrai que ça m'aide, mais c'est tout faire à pied, quoi. Avoir tout pour les enfants. Les parcs, il y en a plein. Plein d'activités pour les enfants. Jardin d'acclimatation. Enfin, il y a énormément de trucs, quoi. Et puis pouvoir tout faire à pied avec mes enfants, ça, je trouve ça génial. Et je rêve quand même de déménager, mais j'ai peur que ça me manque. Vraiment, d'avoir tout à proximité. L'école, elle est juste là, la crèche. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est vraiment facile d'avoir tout à côté, quoi. Puis on a un choix monstrueux de plein de choses, et ça, c'est top. Moi, j'adore marcher, donc en plus, voilà, avec mes enfants et tout. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est cool, quoi. Plein d'activités pour eux. Ouais, ça je trouve ça top.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris?
Alors, Paris, alors moi je suis tout le temps en bois de Vincennes. Parce qu'en fait, c'est assez contradictoire, mais j'aime avoir tout à côté, mais j'ai besoin de nature, quoi. C'est vraiment un truc qui manque, donc en fait, ouais, moi le bois de Vincennes, c'est là où je passe. Je pense qu'on fait la même chose tous les week-ends avec mon conjoint. Mon fils peut faire du vélo, enfin, c'est vraiment grand, hein, comme bois, donc il y a vraiment de l'espace, donc. Non, c'est vraiment top. Il y a des lacs. Enfin, c'est vraiment. Moi, c'est là où j'emmène mes enfants tous les week-ends. Donc, je conseille d'y aller. Même des lacs où tu sais où tu peux faire de la barque et tout. Non, franchement, top. Franchement, ça, c'est cool d'avoir ça à proximité quand t'es quand même à Paris. Quand t'es quand même à Paris, ouais. C'est le bon côté, on va dire.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille?
Rien que pour moi, pour l'instant, c'est d'avoir un troisième enfant, mais j'espère qu'il deviendra un projet en famille dans un an. Rien que pour moi, sinon, plus sérieusement, j'avais commencé à écrire un livre avant, voilà, ça date du coup, hein, avant mon premier. Voilà, j'aimerais le finir un jour. Bon, du coup, c'est un projet à long terme, hein, quand même. Voilà, rien que pour moi, comme ça, prendre du temps pour moi, mais je le fais déjà. Je sais qu'avec mes amis, tous les deux mois, tu vois, on s'organise. Bon, ils ont pas d'enfants encore. Tant mieux, comme ça c'est plus facile à s'organiser pour l'instant. Mais on s'organise vraiment des petits week-ends. Donc voilà, j'arrive à prendre du temps pour moi, donc j'espère continuer à le faire. Et les projets en famille, c'est de déménager. Parce que, comme je disais, on aime d'ailleurs la nature, on aime surtout les montagnes. Et donc, alors, plus ou moins court, moyen terme, mais voilà, dans un an ou un an et demi, on se voit pas du tout rester en région parisienne, bien que, voilà, il y a plein de côtés positifs. Et moi, j'ai besoin de montagne, voilà, après il faudra trouver un travail et ça va pas être une mince affaire, donc voilà, ça c'est vraiment notre projet de famille, puis voilà, profiter avec nos enfants, partir en vacances, rien de fou, voilà.
Merci beaucoup Marjorie.
Bah, avec plaisir, merci à toi.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast, cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marjorie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 93 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.